Bonjour et bienvenue, 16h TU, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, sidération et deuil en Allemagne à la veille des fêtes de fin d'année. L'attaque d'un marché de Noël a fait hier soir 5 morts et quelques 200 blessés. Le chancelier Olaf Scholz s'est rendu sur les lieux du drame. Vous l'entendrez dans un instant. À l'approche des législatives en Allemagne, l'extrême droite est montée au créneau pour dénoncer l'accueil des étrangers. Une semaine après le passage du cyclone Chido, Mayotte attend avec impatience l'aide promise. Emmanuel Macron a promis le raccordement à l'eau des foyers dès aujourd'hui, au moins partiellement. Et puis autre raccordement, cette fois électrique. Le père de Flamanville, le réacteur nucléaire le plus puissant de France, alimente maintenant le réseau électrique. 5 morts et 200 blessés, certains grièvement. Donc c'est le dernier bilan de l'attaque à la voiture d'hier soir. Attaque du marché de Noël de Magdebourg, ville d'Allemagne située à 160 km de la capitale Berlin. La ministre allemande de l'Intérieur estime que l'auteur présumé, un médecin d'origine saoudienne, est islamophobe. Cette ministre, Nancy Faeser, s'est rendue aujourd'hui sur les lieux du drame, aux côtés du chancelier Olaf Scholz. Celui-ci a promis d'agir contre ceux qui veulent semer la haine. On l'écoute.
Il est important, lorsqu'un événement aussi terrible se produit avec autant de blessés et de morts, que nous restions soudés, que la haine ne s'impose pas, mais que notre communauté reste animée par la recherche d'un avenir commun. Ceux qui répandent la haine n'ont droit à aucun pardon. L'auteur de cette attaque doit être poursuivi avec toute la rigueur prévue dans notre arsenal juridique. Il en va de notre avenir.
Le chancelier allemand Olaf Scholz, à l'approche des législatives de février en Allemagne, l'extrême droite de l'AfD s'est saisie de l'attaque d'hier soir pour dénoncer l'accueil des étrangers dans le pays. Soutien de l'AfD, le milliardaire américain Elon Musk a lui réclamé la démission du chancelier qu'il a qualifié d'idiot incompétent. Immigration toujours, 4 dirigeants d'Europe échangent de façon informelle aujourd'hui en Finlande. Les chefs de gouvernement finlandais, grecs, suédois et italiens. Côté italien, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Elle compte faire avancer sur la scène européenne ses idées sur la question migratoire. Nicolas Rocca a recueilli l'éclairage d'une spécialiste, Virginie Guiraudon, spécialiste des politiques européennes d'immigration.
Le Conseil des ministres, qui est vraiment très important au niveau européen, puisque c'est lui qui décide les lois avec le Parlement européen, peut constituer des majorités sur certaines questions. Donc l'idée pour, par exemple, Giorgia Meloni, d'avoir de nouveaux alliés dans des pays qui ont basculé relativement récemment avec des partis de droite radicales, puissent se rallier à ces politiques, puissent être un soutien, et forcément un avantage pour elle. Donc c'est plutôt d'étendre une coalition qui va soutenir ces politiques d'externalisation qui, pour le moment, ne sont pas validées au niveau de la Commission européenne ou complètement, puisque là, il ne s'agit pas de coopérer avec des États tiers, simplement, par exemple, pour les engager à éviter les départs, mais vraiment d'avoir ces centres de traitement, on va dire, et de tri des migrants entre demandeurs d'asile potentiels et personnes qu'on va essayer de renvoyer chez eux ou dans des États tiers.
Une semaine après le passage du cyclone dévastateur, de nombreux habitants de Mayotte attendent d'être secourus. Ils s'étonnent et s'impatientent devant l'arrivée au compte-gouttes de l'aide. Emmanuel Macron a constaté sur place cette semaine l'immensité des besoins. Il a promis le raccordement des foyers à l'eau dès ce samedi, au moins de façon partielle. Mais il a prévenu que pendant des mois, Mayotte ne vivrait pas de façon normale. Ce même cyclone a aussi fait des victimes au Mozambique. Dernier bilan dans ce pays d'Afrique australe, 76 morts. Et près de 62 000 habitations détruites. Les États-Unis ont annoncé la mort d'un chef du groupe État islamique en Syrie, tué dans une frappe américaine dans la province de Deir ez-Zor. Parallèlement, une délégation diplomatique américaine a rencontré à Damas le nouvel homme fort du pays, Abu Mohamed al-Jolani, chef du groupe islamiste HTS. Rencontre qualifiée de positive par les nouvelles autorités syriennes. Satisfaction américaine aussi, visiblement. Les Américains, en effet, ont retiré la récompense de 10 millions de dollars qu'ils offraient en cas de capture de l'ancien membre d'Al-Qaïda, Abla Junaidi.
La délégation américaine, la première officiellement à Damas depuis 2011, était menée par Barbara Leaf, la responsable du Moyen-Orient au département d'État américain. Pour la diplomate, Abou Mohamed El-Jolani a donné des gages. Selon elle, celui qui se fait appeler maintenant Ahmed El-Sharaa a promis de veiller à ce que les groupes terroristes ne puissent pas constituer une menace en Syrie. En première ligne de la guerre contre Daesh depuis 10 ans, il y a les combattants des forces démocratiques syriennes, les FDS. Et ils tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui. Leur commandant, le général kurde Mazloum Abdi, estime qu'il y a un risque d'une résurgence de l'EI à cause de la menace que fait peser l'armée turque. Désormais sur ses hommes. Cette menace d'assaut imminent va détourner, selon lui, de la surveillance des centres de détention d'anciens combattants djihadistes qui sont sous sa supervision. Le voisin, l'Irak, n'est pas en reste. Hier, son ministre des Affaires étrangères, Fouad Hussein, exprimait les mêmes craintes, voir l'EI reprendre du poil de la bête dans le désert entre la Syrie et l'Irak.
Après Mayotte, Emmanuel Macron est maintenant à Djibouti. Il s'est rendu auprès des troupes françaises à l'occasion des fêtes de fin d'année. À l'heure où Paris est contraint de retirer ses troupes dans plusieurs pays d'Afrique, il a souligné l'importance de la présence française dans la Corne de l'Afrique pour le développement de sa stratégie dans la région Indo-Pacifique. C'était lors d'une rencontre avec son homologue, le président de Djibouti. Le drame avait fait 15 morts dans l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad en Serbie. Plus d'un mois et demi après, la contestation contre la corruption et l'impunité continue à travers le pays. Les étudiants et les lycéens appellent à une nouvelle grande manifestation demain dimanche. Direction maintenant le Canada à l'heure d'une crise politique. Justin Trudeau vient de remanier son gouvernement. Un tiers des ministères sont concernés. Insuffisant pour l'opposition qui réclame toujours le départ du Premier ministre. Certains Québécois, interrogés par Pascal Guéricola, pensent eux aussi que ces jours sont comptés à la tête du gouvernement.
L'honorable Indira Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce.
Pendant que les ministres de Justin Trudeau prêtent serment pour assumer leurs nouvelles fonctions, les citoyens, eux, s'interrogent sur la durée de vie de ce nouveau gouvernement.
C'est le bordel total. Tout le monde est dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer avec Bambi, alias Trudeau?
Ça sent la fin d'un règne, d'un régime. M. Trudeau est là quand même depuis très longtemps. Peut-être qu'on pourrait passer à d'autres choses, là.
Le chef de l'opposition réclame la réouverture de la Chambre où siègent les députés pour montrer la sortie à Justin Trudeau. Ce jeune homme voit pourtant le premier ministre assumer ses fonctions encore quelques mois.
Je pense qu'il va rester, ouais. Là, il fait son remaniement ministériel, fait qu'il va vouloir rester encore, faire comme un deuxième second souffle, puis ça va échouer, je pense, après le premier débat.
Justement, cette trentenaire pense, elle, aux résultats d'élections anticipées si Justin Trudeau quitte son poste.
Ça m'inquiète pour la montée du conservatisme. Probablement le Parti conservateur qui va rentrer au pouvoir dans les prochains mois. C'est inquiétant.
Selon les sondages, les conservateurs disposeraient d'une imposante majorité si des élections ont lieu prochainement. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Enfin, c'est une maladie d'une autre époque et qui pourtant est en hausse ces derniers temps chez les petits Français. Je veux parler du scorbut, maladie due à une carence de vitamine C dans l'organisme. Une étude montre une flambée l'an dernier de plus de 34% des cas de scorbut. Explication d'Aram Beng.
L'étude montre une augmentation notamment chez les enfants en situation de précarité. Professeur Ulrich Menzer, pédiatre à l'hôpital Robert Debré de Paris, en est le coordinateur.
On a comparé les différents groupes de maladies qu'on avait analysées, la proportion de malades qui avaient une CMU, donc ça c'est un critère de précarité, et on a remarqué que cette augmentation après la COVID-19 dans les groupes de scorbut, c'était beaucoup plus important que dans les autres.
La précarité alimentaire liée à l'inflation pendant et après le COVID-19 a également favorisé l'augmentation des cas de scorbut. Lutter contre cette hausse équivaut à assurer aux enfants une alimentation équilibrée.
Ça veut dire qu'il faut manger idéalement, donc commencer par vraiment des aliments frais et après faire plutôt une cuisson douce. Et donc, il est recommandé d'avoir 5 unités de fruits ou légumes par jour. Donc, ça peut être une orange, c'est une unité, une pomme, c'est une unité, mais une bowl de soupe, c'est aussi une unité. Et si vous faites ça, il n'y a pas de risque, vous n'allez pas avoir le scorbut, c'est sûr.
Un peu plus de 800 enfants âgés de moins de 4 ans à 17 ans étaient concernés par l'étude, mais l'augmentation des cas de scorbut la plus importante est enregistrée dans la catégorie d'âge des 5 à 10 ans.
L'étude sur le scorbut a été menée par des médecins des hôpitaux Robert Debré et de Cayenne, ainsi que par des chercheurs de l'INSERM et de l'Université Paris-Cité. Voilà, très bonne journée sur RFI. Tout de suite, Mondial Sport.